L'accent des autres, avec les médias francophones publics.
Bienvenue, voici donc l'actualité de la semaine avec les partenaires des médias francophones publics, la Radio-Télévision Suisse, Radio-Canada, RFI, ici et la RTBF. Et on va commencer avec une affaire d'espionnage au moment où les tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie sont au plus haut. On apprend qu'un employé du ministère français de l'économie a été mis en examen en décembre dernier. Et cela, Nicolas Sûr, pour espionnage au profit de l'Algérie.
Ce fonctionnaire est soupçonné d'avoir transmis des informations confidentielles sur des ressortissants algériens installés en France.
Il est le nouveau président du Parti libéral au Canada. Il est aussi le nouveau Premier ministre du pays, Nadi Moubarak.
Le libéral Mark Carney prend la place de Justin Trudeau.
Nous reviendrons aussi sur l'élection en Suisse, cette fois d'un nouveau membre du gouvernement. C'est un moment politique important, Laurent Caspary.
Oui, et si vous n'en avez pas entendu parler dans le reste de la francophonie, pas de souci, nous avons l'habitude. Il n'empêche, cette élection traduit l'extraordinaire stabilité du système politique suisse. Imaginez, Martin Pfister, c'est de lui dont on parle, était un inconnu il y a encore 2 mois.
En France, les soignants n'en peuvent plus. Violences verbales et physiques, ils sont de plus en plus pris à partie. Un collectif s'est mobilisé ce mercredi à l'occasion de la journée européenne contre la violence dans les soins de santé. Enfin, ce coup de frein pour la mobilité en Belgique. Miles, l'entreprise allemande spécialisée dans les voitures partagées, quitte les 3 villes belges où elle s'était installée il y a 3 ans à peine, Jacques Kremers.
Oui, et cela fait 1400 voitures en libre service en moins. 2 ans après son arrivée, l'entreprise berlinoise de carsharing se dit victime du vandalisme, de l'utilisation abusive de ses véhicules.
Voilà donc pour le sommaire de cette semaine. C'est une révélation de l'agence France Presse et du quotidien Le Parisien cette semaine. Un fonctionnaire du ministère français de l'économie a donc été mis en examen en décembre dernier pour intelligence avec une puissance étrangère. Il aurait livré des renseignements sur des opposants au régime algérien à un employé du consulat algérien de Créteil en région parisienne, Nicolas.
L'affaire commence en juin 2024, quand le contre-espionnage français est informé qu'un franco-algérien de 56 ans, cadre au ministère de l'économie, échangerait des informations confidentielles avec un employé du consulat d'Algérie, identifié comme un agent de la DDSE, les services de renseignements extérieurs algériens. Selon le journal Le Parisien, c'est lui qui aurait recruté le fonctionnaire, usant de divers moyens de pression pour le mettre à son service.
Oui, et les informations échangées portaient sur des personnalités algériennes installées en France.
Des opposants politiques, des journalistes ou des membres de la diaspora algérienne considérés comme influents. Ces informations, le cadre du ministère les aurait notamment obtenues d'une assistante sociale de l'Office français de l'immigration avec qui il avait noué une relation. Elle avait accès à des données sur la situation administrative des Algériens concernés, comme leur demande d'asile, et a été mise en examen, elle aussi, en février, pour violation du secret professionnel. Le fonctionnaire franco-algérien, lui, est poursuivi depuis le 19 décembre. Pour intelligence avec une puissance étrangère. Son avocat dénonce une campagne de menaces et de manipulation de la part d'une puissance qui aurait resserré son étau autour de lui. Quant à l'agent du consulat d'Algérie, lui n'a pas été arrêté car protégé par son immunité diplomatique.
Mark Carney est donc le nouveau Premier ministre du Canada. Son investiture a eu lieu ce vendredi, quelques jours seulement après sa victoire dans la course à la direction du Parti libéral. Nadi, il remplace donc Justin Trudeau.
Oui, d'ailleurs, la victoire de Mark Carney dimanche soir a été sans appel. Il a obtenu près de 86% des voix dès le premier tour de scrutin. Le nom de Mark Carney circulait dans les rangs libéraux pour succéder à Justin Trudeau depuis l'annonce de sa démission le 6 janvier dernier. Après des années à travailler dans l'ombre du gouvernement, l'économiste de carrière qui a été gouverneur de la Banque du Canada et par la suite le chef de la Banque d'Angleterre a donc réussi son pari de se lancer en politique active.
Alors dans le contexte actuel, on imagine, Nadi, que la guerre tarifaire lancée par le président américain à l'encontre du Canada sera en tête des priorités du nouveau Premier ministre.
Tout à fait, surtout que les États-Unis ont imposé des tarifs douaniers de 25% sur l'acier et l'aluminium canadien mercredi dernier. Mark Carney s'est dit prêt à parler directement avec le président américain des relations commerciales entre les deux pays, mais il exige que Washington respecte la souveraineté du Canada. Donald Trump a répété à plusieurs reprises vouloir faire de son voisin le 51e État américain. On écoute Mark Carney.
Nous sommes prêts d'avoir des discussions avec les Américains dans un sens compréhensif. Afin de relancer notre partenariat économique.
Mark Carney a aussi précisé vouloir travailler à la mise en place d'une approche commune et beaucoup plus globale pour le commerce.
Alors, quelle sera la suite sur le plan politique?
Eh bien, les observateurs s'attendent à ce que Mark Carney déclenche des élections fédérales rapidement, soit avant la fin de la prorogation du Parlement le 24 mars, d'autant plus qu'il n'a pas de siège à la Chambre des communes. En coulisses, les stratèges libéraux évoquent deux dates possibles pour la tenue du scrutin, le 28 avril ou le 5 mai.
Du changement aussi en Suisse cette semaine, le pays a élu le centriste Martin Pfister comme nouveau membre du Conseil fédéral. Il va reprendre la direction de l'armée à un moment où les questions de sécurité agitent le monde entier et il est très attendu. Le département de la sécurité est secoué par plusieurs démissions importantes, mais ce qui frappe dans cette élection, c'est finalement la stabilité du système suisse qui fonctionne comme si de rien n'était dans un monde en ébullition.
Résultat de l'élection.
Gewählt ist mit 134 Stimmen.
Est élu avec 134 voix.
Martin Pfister.
Et voilà, c'est comme cela qu'est proclamée l'élection d'un membre de gouvernement en Suisse, un conseiller fédéral qui sera un jour, par tournus, le président de la Suisse. Ce qui frappe dans cette élection, c'est que l'heureux élu était peu ou prou un total inconnu du grand public il y a 2 mois à peine. Il s'en amuse d'ailleurs, écoutez-le.
Premièrement, il faut dire, mon nom est très connu, Pfister. L'autre Pfister est plus connu que moi. J'ai essayé de parler avec tout le monde. J'ai pas parlé avec tout le monde, c'est pas possible, mais avec tout le monde qui a voulu parler avec moi. Ouais, à la fin, c'est la décision des parlementaires, ce qu'ils veulent.
Oui, Pfister, un patronyme bien connu en Suisse et porté par certains cadors de la politique, dont Martin Pfister ne faisait pas partie car il était élu à l'échelle locale dans l'exécutif du canton de Zoug. À y regarder de plus près, cette élection est symbolique à bien des égards. Tout d'abord, elle s'est déroulée dans un climat très calme, très suisse, alors que le monde entier bouillonne par rapport à ce qui se passe aux États-Unis avec un Donald Trump qui souffle le froid et le chaud dans toutes les directions. Comme si la Suisse était hermétique à la fureur internationale, son système politique complexe a fonctionné comme une horloge pour se renouveler progressivement. Mais derrière ce calme apparent, les enjeux sécuritaires existent bel et bien. Le fait que Martin Pfister soit un colonel à l'armée et qu'il a avoué être plus à l'aise dans une caserne que dans les travées du Parlement n'est pas étranger à son élection. Les attentes autour des questions sécuritaires sont nombreuses et quelque part, la Suisse a élu cette semaine un chef militaire. Comme quoi la situation internationale a bel et bien pesé sur son accession au gouvernement.
C'était Laurent Caspary pour la Radio-Télévision Suisse.
L'accent des autres.
Insultes, blessures, harcèlement et traumatismes psychologiques, les soignants n'en peuvent plus en France notamment. Alors un collectif qui représente des professionnels de la santé a appelé mercredi dernier à la mobilisation à l'occasion de la journée européenne contre la violence dans les soins de santé. Il faut dire que les soignants de toutes les professions de santé vivent la violence à la fois verbale et physique. Quasiment au quotidien, Aurélie Loquet est allée à la rencontre de soignants qui ont été agressés physiquement ou menacés en Alsace.
On a eu trop peur, je veux dire, on voit un couteau qui est comme ça, on n'a pas d'armure, on n'a pas de gilet pare-balles, on arrive et on ne sait pas toujours ce qui nous attend.
Ce jour-là, Myriam Kerkoub, infirmière libérale à Strasbourg, se rend au domicile d'une patiente pour tenter de convaincre sa fille de mettre en place un autre traitement. Elle est contre.
J'ai continué quand même à négocier, à discuter, ça a énervé le gendre en fait. Ça l'a énervé, puis il m'a sorti un cran d'arrêt. On est démunis hein, face à ça, hein. On n'a personne, hein. On est tout seul. Hein.
Seul face à une menace, une réalité vécue aussi par Véronique Bier, infirmière libérale à Mittelhausbergen.
J'étais séquestrée.
Séquestrée au domicile d'une patiente qu'elle suivait depuis un moment.
Un soir, j'arrive pour lui donner ses médicaments, et là, sa mère, elle m'enferme, et elle me dit « Vous restez avec moi, ma fille, ça ne va pas du tout ». La fille que l'on suivait avait déjà agressé sa maman auparavant, et là, elle m'enferme. Et la fille était en délire paranoïde complet. Alors heureusement, elle n'était pas agressive ce jour-là.
Après quelques coups de fil, Véronique Bier obtient l'intervention de la gendarmerie. Elle s'en sort cette fois sans blessure physique, mais plus récemment, elle a été frappée par une autre patiente. À Mulhouse, c'est par des tirs de fusil à plomb que Mathieu Herman, président de SOS Médecins, a été touché lors d'une visite à domicile.
J'étais appelé pour aller voir sa compagne. Et en fait, le monsieur a directement été agressif, insultant, véhément. Il m'a menacé de me tirer dessus. Et en fait, il a mis sa menace à exécution. Il s'est levé, il a chargé son fusil, il m'a mis en joue, il m'a plaqué contre la porte et puis après il m'a tiré dessus.
Mathieu Herman s'en tire avec des hématomes et le risque d'une nouvelle agression toujours dans un coin de la tête. Des agressions au domicile des patients, dans les cabinets, à l'hôpital. Il y a 2 mois, une aide-soignante a pris un coup de poing suivi d'un arrêt de travail à l'hôpital de Haute-Pierre. Quant aux agressions verbales, elles sont encore plus répandues, voire banalisées. Christian Prudhomme, secrétaire général FO du CHU de Strasbourg.
Il y a une acceptation qui, pour moi, n'est pas normale, mais qui s'est faite avec les années. Je veux dire, il y a peut-être 20, 25 ans, on n'acceptait pas un mot plus haut que l'autre. Aujourd'hui, ce sera surtout le geste physique qui va faire qu'on dépose plainte. Mais c'est vrai que l'agression verbale est très rarement relevée de nos jours.
Le CHU du 12 mars, qui appelle à la mobilisation aujourd'hui, demande donc la mise en place de sanctions dissuasives.
Reportage d'Aurélie Loquet pour Ici Alsace. Enfin, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la mobilité en Belgique. La société allemande de voitures partagées Miles plie bagages pour se recentrer sur l'Allemagne. Les chiffres d'utilisation évoluaient pourtant plutôt bien, mais les gestionnaires mettent en avant de trop nombreuses incivilités, Jacques.
Voilà une déclaration qui en effet n'est pas passée inaperçue. À Bruxelles, où se concentre la majorité de ces véhicules, le taux de vandalisme est incomparable avec toutes les villes allemandes. C'est le patron de la société de car sharing Miles, leader sur le marché allemand, qui le dit. Installé à Bruxelles, Anvers et Gand depuis 2022, l'opérateur dit connaître une évolution positive de l'utilisation de ces voitures, mais les abus, les incivilités et les tentatives de vol, surtout à Bruxelles, coûtent trop cher, et tout cela au détriment de ses 180 000 utilisateurs.
La vérité, il y a beaucoup de problèmes avec Miles. Très souvent, les voitures sont endommagées, etc. C'est la deuxième que je prends de la journée. J'attends mon remboursement.
Déjà que le service est cher. Si en plus on arrive dans un véhicule qui est un petit peu saccagé ou qui sent la clope ou ce genre de choses, voilà quoi, ça donne plus trop envie d'utiliser le service. Et eux, j'imagine même pas le coût que ça doit être pour rénover tout ça et remettre en état, donc je comprends leur départ.
Les 1400 voitures partagées de l'opérateur Miles seront retirées à la fin du mois d'avril. Miles Party reste Cambio, qui a essaimé progressivement et durablement aussi dans près de 150 villes, et Poppy, qui lui aussi connaît des problèmes de vandalisme. Fin 2024, cet opérateur avait décidé de retirer ses véhicules déployés à Liège, aussi en raison des incivilités, des comportements qui donc menacent le développement de cette alternative durable à la mobilité automobile.
Voilà, c'est avec Jacques Crémers et la RTBF que l'on va se quitter cette semaine. Merci d'avoir été au rendez-vous de l'Accent des Autres. On se fixe, si vous le souhaitez, rendez-vous dans 8 jours. Même endroit, même heure. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine.